Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter Mathieu Brégégère pour parler des adolescents. Après une vie scolaire compliquée, Mathieu a décidé de démarrer sa carrière en tant qu'éducateur de rue, pour venir en aide aux jeunes issus des quartiers difficiles. Il a ensuite découvert la méditation et est devenu enseignant de méditation, puis auteur du livre « Et si la méditation était la solution aux éditions Le Duc ?» Un livre sincère de son travail auprès des adolescents. Durant cet entretien, nous avons parlé du rôle de la méditation et de son expérience dans les collèges et lycées pour accompagner les ados et les professionnels de l'éducation qui souhaitent le mettre en place dans leurs établissements. Son parcours est touchant et son approche fait tellement de sens qu'on aimerait pouvoir se cacher et suivre nous-mêmes l'un de ses cours auprès des ados. On vous laisse découvrir tout ça et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors nous avons découvert récemment votre livre qui s'appelle « Et si la méditation était la solution aux éditions Le Duc » pardon, et nous l'avons adoré. Et c'est pour ça que nous sommes ravis que vous puissiez nous raconter votre histoire au micro des adultes de demain. Alors la tradition pour ce podcast est de démarrer les épisodes en entrant un petit peu plus dans le parcours personnel et professionnel de nos invités.
D'accord.
Et donc j'aimerais démarrer cet entretien en vous demandant de rappeler à nos auditeurs ce qu'est votre parcours.
Très bien. Mais peut-être commencer ce parcours et peut-être il y aura des moments où j'irai un peu plus dans le passé. Mais voilà, je commencerai par ma formation de base. Après le bac, j'ai postulé pour les concours d'éducateur spécialisé. Et c'est la formation que j'ai réalisée. C'est une formation qui dure 3 ans. Et à ce moment-là, j'étais dans le sud-ouest parce que je viens du sud-ouest. C'était une école qui a eu lieu à Pau où mes parents habitaient. Donc j'ai fait une école pendant 3 ans et pendant cette école d'éducateur, j'ai vraiment senti le besoin après la fin de la formation de pouvoir partir, changer d'air, aller découvrir d'autres horizons, un peu partir à l'aventure. Et dans notre famille, on a vraiment une tradition qui est de monter sur Paris. Enfin, plusieurs personnes dans ma famille l'ont fait. Et puis voilà, j'avais vraiment ce désir. Donc dès que j'ai fini ma formation d'éducateur spécialisé, je suis monté à Paris pour travailler. Et j'avais envie, j'avais un désir, c'était de travailler comme éducateur de rue dans les quartiers difficiles de la région parisienne. Et c'est ce que j'ai réussi à trouver. J'ai réussi à décrocher un poste. Alors ça n'a pas été facile parce que j'étais quand même assez jeune. Les formations d'éducateurs spécialisés, elles peuvent vraiment attirer des personnes qui sont en reconversion, qui ont une grande expérience. Moi, j'étais vraiment un des plus jeunes de ma formation, donc j'arrivais un peu à Paris avec plein de désirs et d'envie, mais voilà, travailler dans un quartier avec des 12-25 ans, c'est pas forcément un passage évident. Donc j'ai fait pas mal d'entretiens où j'ai été un peu recalé. Et puis il y a un chef de service qui m'a fait confiance dans une association qui travaillait dans un quartier à Gennevilliers. Et donc j'ai commencé à travailler là-bas et j'ai fait un parcours de 7 ans comme éducateur de rue à Gennevilliers. C'est important de rester longtemps parce que l'éducateur de rue, en fait, c'est quelqu'un qui prend le temps de s'implanter dans le lieu où il travaille. Et si on y reste qu'un an, on n'a vraiment pas le temps de connaître les commerçants, de rencontrer vraiment les jeunes en profondeur. Donc voilà, j'ai fait vraiment ce parcours pendant 7 ans. Et là, en parallèle, je continuais mes études. En fait, moi, je travaillais l'après-midi et le soir dans la rue. Et puis le matin, il n'y a pas trop de jeunes qui sont là. Et donc, j'en ai profité pour faire des études à distance en sciences de l'éducation, qui est un peu un parcours qui peut être une belle continuité pour des personnes qui ont fait un parcours d'éducateur. Donc, j'ai obtenu peu à peu le Master 2 en sciences de l'éducation. Et en même temps, c'est vraiment une période riche de ma vie où j'ai aussi rencontré la pratique de la méditation à ce moment-là, pendant que j'étais éducateur de rue, de manière tout à fait anodine, par des rencontres. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je pratiquerais, parce que c'est pas du tout la culture familiale, ma culture familiale. Et donc, j'ai rencontré l'association qui s'appelle l'École de méditation, qui a été fondée par Fabrice Midal, et j'ai commencé à pratiquer pour moi-même. Et peu à peu, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et peu à peu, j'ai nourri le désir de transmettre à mon tour cette pratique qui a, comme je vous le disais, changé ma vie. Et à ce moment-là, j'étais formateur. J'étais devenu formateur d'éducateurs spécialisés. Je formais les futurs éducateurs. Et je me suis senti assez légitime à ce moment-là pour pouvoir en parler. Ça faisait 6 ans que je méditais. J'avais mon parcours. Je sentais que je pouvais en parler, le transmettre. Et j'ai commencé à faire des petits modules pour les éducateurs en formation. Et j'ai senti vraiment que ça les aidait en profondeur. C'était des jeunes adultes, souvent qui avaient, quand on veut faire éducateur, souvent on a un petit parcours soi-même. Et je sentais que ça les aidait pour sur plein de points. On pourra en parler peut-être après. Et à la fin de cette première année où j'ai fait mes premiers modules, je me suis dit, mais Mathieu, est-ce que tu as envie de rencontrer seulement une promotion par an, de leur parler de cette pratique qui te parle tant et qui semble leur parler tant, ou t'as envie vraiment de transmettre cette pratique au plus grand nombre? Est-ce que c'est pas ça qui a du sens dans ta vie? Et voilà, je me suis pas mal remis en question et j'ai décidé à ce moment-là de devenir auto-entrepreneur, de faire un saut un peu, parce que là j'avais quand même un poste de CDI cadre responsable de formation et de faire ma passion, de transmettre cette pratique. Et j'avais le public adolescent que j'avais rencontré quand j'étais éducateur de rue et je me disais, voilà, la méditation, elle a de plus en plus de place dans les écoles primaires. Ça commence à vraiment, il y a beaucoup de gens qui se forment et qui proposent cette pratique. Pour les adultes, bien sûr, mais peu pour les adolescents. Je me dis qu'il y avait un public là, que je connaissais bien et j'avais envie de les rencontrer autour de cette pratique. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et depuis, j'interviens dans des lycées, dans des collèges. Je travaille beaucoup avec l'éducation nationale, mais aussi avec les jeunes adultes dans certaines universités, à Sciences Po. Enfin voilà. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui.
Génial. Super intéressant. Et il y a une période de votre vie que vous n'avez pas évoquée, mais dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est votre expérience de l'école et de l'adolescence. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce passage de votre vie?
Ouais, là, ça, c'est vrai que ça, c'est important d'en parler parce que c'est pas pour, au fond, ça explicite un petit peu pourquoi je me suis aussi autant intéressé à cette question de l'adolescence. Parce que dans mon propre parcours, en tout cas avant l'adolescence, mais dès très très jeune, mon rapport à l'école a été assez compliqué. Donc j'ai été vraiment intégré dans une école de type normal, quoi, enfin une école publique. Et très très jeune, je me suis pas senti complètement adapté à la norme qui était proposée dans ce genre d'école, et je me suis senti très très vite mal, pas à la hauteur en tout cas des attentes. Et je me suis construit vraiment comme un mauvais élève. Et ça a duré jusqu'au bac. J'ai redoublé 2 fois. J'avais l'impression que j'arriverais jamais à m'en sortir. Et quand j'ai écrit notamment le livre, enfin parce que ouais, par rapport à l'écriture de livre, quand j'essayais de réfléchir justement à mais d'où ça vient ça, parce que je me rappelle depuis très petit que je me sentais pas à l'aise à l'école, que je me sentais nul, que je me sentais vraiment bête, même pas intelligent. Et je me suis rendu compte que c'est ce sentiment de pas être à ma place, c'est arrivé dès la maternelle. Ça, je le voyais pas jusque-là, enfin même pendant mes études. Et c'est vraiment à la maternelle où j'ai senti que je ne correspondais pas aux attentes. Je me rappelle il y a eu des flashs comme ça où je me voyais en train d'essayer de découper une feuille et que je ne suivais pas du tout la ligne et que je vois ma maîtresse à ce moment-là. Alors, c'est des flashs, hein, qui me disaient, non, mais ça va pas du tout, va dans ce groupe-là. Et j'ai senti vraiment que j'allais dans un groupe de ceux qui étaient pas à la hauteur, quoi. cette sensation profonde qui s'est inscrite en moi, et j'ai vu comment, au-delà des personnes que je rencontrais après, comment je m'étais enfermé aussi un petit peu dans ce rôle. Donc ça, c'est un peu ça. Et puis après, il y a eu une forme de révélation quand je suis rentré à l'école d'éducateur, où là, je me suis vraiment réconcilié avec la connaissance. Je découvrais de nouvelles maths. J'avais envie aussi, hein. Il y avait une passion qui était derrière. J'ai découvert la psychologie, j'ai découvert la sociologie, l'anthropologie, toutes ces matières des sciences humaines. Et là, j'ai vu que, alors que je me sentais vraiment nul et bête, qu'il y a quelque chose, je sais pas, qui s'est ouvert dans mon esprit, et que j'ai vu que j'étais capable d'apprendre, de comprendre, de me sentir même vraiment intelligent. Et là, je crois que c'est ça aujourd'hui qui me donne un peu une force et ce désir d'aller rencontrer ces adolescents dans un moment de crise, où c'est que j'ai vu que je pouvais me sentir vraiment nul et qu'il y avait quand même une possibilité que ça se transforme, qu'il y avait une métamorphose possible. Et je l'ai vu aussi beaucoup en tant qu'éducateur de rue avec les jeunes déscolarisés que j'ai rencontrés. Voilà, et comme une confiance en la possibilité de l'être humain à se transformer d'où qu'il vienne, quelle que soit son histoire. Et je crois que voilà, c'est ça ma peut-être une de mes forces qui fait que voilà, j'ai envie d'aller rencontrer ces jeunes où qu'ils soient et de leur faire vivre cette période peut-être d'adolescence d'une manière plus voilà, et l'adolescence après du coup au collège, au lycée, c'était assez terrible. Le collège, c'était très très dur pour moi.
Et vous avez identifié pourquoi dès la maternelle vous aviez eu ce sentiment ?
Mais l'impression que en fait moi je sentais que j'avais une profonde sensibilité. Et que, par exemple, je pleurais souvent, enfin, j'étais très, très souvent très touché. Et j'avais l'impression que cette sensibilité, elle n'était pas reconnue. Qu'il y avait quelque chose de, je le matérialisais, enfin, je l'imaginais pas comme ça à cette époque, je me le disais sûrement pas comme ça, mais après coup, là, je sens que, et c'est pour ça, d'un côté, cette sensibilité, c'est ce qui m'a un peu sauvé de pas arrêter l'école aussi, parce que, franchement, à des moments, j'avais vraiment envie d'arrêter, mais c'était, du coup, cette sensibilité, elle s'est manifestée dans la relation avec mes pères, avec mes camarades, où j'ai nourri de très, très belles amitiés, mais, je crois que c'était ce sentiment d'avoir une, voilà, on m'a jamais parlé. Moi, c'est grâce à la méditation qu'on m'a parlé de la sensibilité, que ça pouvait être une force, que c'était un problème. Moi, je pensais que quand je pleurais, quand j'étais fragile, cette vulnérabilité, c'était une faiblesse qu'il fallait absolument que je cache. Et peu à peu, notamment en rencontrant la pratique de la méditation, mais aussi déjà quand j'ai rencontré l'école d'éducateurs, parce que c'est quand même un métier basé sur l'humain où notre sensibilité est quand même la base de notre rencontre avec l'autre. Je me suis dit, mais non, mais ça peut être une force aussi. Et là, ça a tout changé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je rencontre des adolescents, j'essaie de vraiment leur montrer que cette vulnérabilité qu'ils rencontrent, ça peut devenir une force aussi.
Mmh. Donc voilà. C'est génial. Et alors, justement, vous avez évoqué le terme méditation. Est-ce que vous pourriez nous rappeler à tous pourquoi il ne faut pas voir la méditation comme un outil de gestion de stress ou un outil pour calmer ses émotions, comme on le voit un peu partout maintenant?
Oui, c'est vrai. C'est vrai que aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça qu'on le voit dans les magazines et c'est la manière dont un peu on vend en grande majorité la méditation. Et au fond, la méditation, concrètement, et les faits font qu'elle va réduire le stress. Là, les études en neurosciences le montrent, qu'elle permet vraiment à des moments de mieux rencontrer ses émotions et parfois d'avoir des moments où on peut avoir une forme de calme et de tranquillité, de sérénité. Mais en France et en Occident, on a un peu instrumentalisé ça en faisant que grâce à la méditation, vous allez obtenir ça. Et là, il y a un petit souci en fait d'objectif parce que quand, en fait, le but, le moment de la méditation, ce qu'elle nous permet, c'est de vivre un moment où on n'a plus d'objectif, plus d'attente. On se libère un peu de ce rapport habituel qu'on a aujourd'hui aux choses, c'est de « je fais quelque chose pour obtenir un résultat qui va m'amener là ». Et le paradoxe finalement que nous propose de vivre la méditation, c'est de vivre un moment de pause où on arrête de passer par ce rapport à tout par le biais de la volonté, où on essaie d'obtenir un objectif qui fait que cette pause nous permet de toucher un sens d'où on se pose vraiment. Et paradoxalement, en ne cherchant pas d'objectif, dans ce moment, on arrive à avoir les fruits de pas avoir de stress, de s'apaiser, de toucher un moment où on est quelque chose aussi où les pensées sont moins prégnantes. Mais pour pouvoir toucher cette présence, ce type de présence, il faut lâcher l'instrumentalisation d'obtenir un résultat quand on le fait. Et au fond, en fait, si moi je dis aux ados, mais je le vois avec les adultes au pareil, grâce à la méditation, et ça marcherait en termes de marketing, et au départ, ça, c'est sûr que ça donne envie, en fait. J'aurais peut-être plus de contrats, on va dire. Mais si je dis aux ados, ben voilà, grâce à la méditation, vous allez avoir moins de pensées, vous allez être beaucoup plus concentré, vous allez mieux gérer votre stress, eh bien, quand ils vont se poser, eh bien, ils vont essayer, ils vont se dire, bon, ben voilà ce qui va se passer. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait? Quand on médite, qu'on essaye la première fois, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on a plein de pensées, justement, au contraire, des pensées qui n'ont rien à voir avec le présent. On nous dit de suivre notre souffle, de sentir notre corps, et à des moments, on n'y est pas du tout. On a un souvenir qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Donc, en fait, on ne rencontre pas cette sérénité. On peut rencontrer du stress, on peut rencontrer une émotion un peu difficile. Donc, si on vend du rêve comme ça aux gens, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent la méditation, mais il y en a presque 80% qui vont arrêter très vite parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas fait pour eux, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont autant stressés.
Que ce n'est pas immédiat.
Et donc, au fond, voilà, moi, avec les adolescents, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt créer une atmosphère où pendant quelques minutes, comme je vous le disais, ils vont pouvoir faire une pause. Pour reprendre un peu les termes de Fabrice Midal, parce que ça marche beaucoup avec les ados, c'est qu'ils vont pouvoir prendre un temps, ils vont se foutre la paix complètement. Et ça, en y allant dans cette direction, avec ce truc, ça les étonne un petit peu. Et puis, ça les apaise, parce que je leur dis, si vous avez des pensées, vous avez des pensées, ça fait partie de la pratique. C'est pas parce que vous avez des pensées que vous pratiquez mal. Il n'y a rien à réussir. Enfin, j'amène vraiment plein d'éléments qui leur permettent de peu à peu se rendre compte que là, pendant ces quelques minutes, ils peuvent passer dans un autre mode de rapport que celui avec lequel ils sont en rapport aux choses habituellement. Et c'est ça qui transforme la vie, c'est ça qui révolutionne notre vie. C'est plutôt une attitude, la méditation, plutôt que d'obtenir un résultat sur des points précis comme le stress, les émotions, voilà.
Super clair. Et alors justement, comment est-ce que vous pratiquez concrètement cette méditation avec les adolescents? Peut-être que vous pouvez nous donner un exemple d'une classe ou quelque chose comme ça pour qu'on arrive à s'imaginer ce que vous faites au quotidien.
Oui. Donc, au début, le projet, le projet s'est lancé aussi par une rencontre. Ça fait souvent par des rencontres avec une enseignante qui était dans un lycée professionnel en région parisienne, et qui, elle, son constat de départ, c'était, voilà, dans ma classe, elle était prof de français histoire, parce que dans les lycées professionnels, ils font les deux, et elle disait, l'attention des élèves actuellement se réduit de plus en plus. Moi, je me rends compte presque année après année, presque même dans une même année, voilà, les élèves, et elle avait un exemple qui était assez marquant, je trouve. Elle dit, voilà, il y a un élève qui me pose une question, donc, comme il me pose une question, on imagine qu'il est intéressé par la réponse. C'est une question qui vient de lui. Donc, il pose la question, l'enseignante commence à répondre et le temps de la réponse, l'élève a décroché déjà. Ça, on a même, c'est assez, assez fou. Et moi, je me rends compte dans les classes depuis que j'y suis, cette difficulté aujourd'hui. Et moi, je suis très, très admiratif des enseignants aujourd'hui parce que c'est presque un métier impossible. Où il faut devenir un super-héros ou une super-héros, ou être aussi donner de l'intensité à ses cours aussi de manière aussi intense que dans une série, parce que l'attention d'un élève décroche. Aujourd'hui, je crois qu'il y avait une étude qui montrait que voilà, si on n'accroche pas l'attention d'une personne, c'est pas que les ados, hein, on est tous pris un peu dans ce système. Toutes les 7 secondes, si sur YouTube, sur une série, on n'arrive pas à réaccrocher l'attention. Toutes les 7 secondes, la personne, elle décroche. Donc là, il y avait un vrai enjeu de départ. Et donc, elle est partie de cette question. Donc moi, on s'était dit, bon, ben voilà, l'idée, c'est peut-être que je rencontre ta classe, que je puisse commencer à rencontrer les élèves en grand groupe, parce que bon, ben ça semblait, dans un collège, dans un lycée, ça semblait compliqué de faire des petits groupes. Bon, ben voilà, je me suis dit, c'est quand même un défi de rencontrer 30 élèves, mais bon, on va tenter ça. Et puis, elle en parlait dans son lycée, et plusieurs enseignants ont été intéressés. La CPE aussi a été intéressée. Donc, on s'est un peu retrouvés en réunion. Et la proviseure de ce lycée a entendu parler, elle m'a reçu. Et puis, j'ai senti qu'il y avait vraiment un désir plus collectif que juste rencontrer une classe. Et on réfléchissait sur le long terme. On se disait, mais d'accord, tu vas intervenir dans une classe, deux classes. OK, ça peut marcher. Mais après, qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que moi, c'est sûr, j'allais pas travailler dans le lycée pendant toute l'année. Donc, qu'est-ce qui allait se passer après? Et là, c'est vrai qu'on s'est dit, est-ce que ce serait pas bien, en parallèle de rencontrer chaque classe, que je puisse aussi faire une formation pour les enseignants qui le souhaitent, hein, pour qu'eux-mêmes, après, ils soient autonomes et qu'au fond, je crée une situation favorable. Et puis après, j'aille dans un autre lycée, un autre collège, et puis qu'après, ça roule tout seul. Et que les enseignants puissent eux-mêmes transmettre la pratique. Et dans leurs attentes, l'idée, c'était peut-être de permettre à cette pratique de la méditation d'intervenir en tout cas au début de la classe, parce qu'ils trouvaient que c'était un moment de transition. Donc les élèves arrivent, soit il y a eu la récréation, si c'est 10h30, donc là ils ont passé 5, 10, 15 minutes à l'extérieur avec leurs amis, avec un rythme intense, ou même la traversée des couloirs, ils disent ça suffit déjà à créer une forme d'agitation chez les élèves. Et puis ils arrivent, ils se posent dans leur nouvelle classe, et là, avant de vraiment capter quelque chose de leur attention, il y a bien un quart d'heure, 20, 30 minutes. Enfin, bon, ça dépend des classes, peut-être c'est 5 minutes parfois, mais en tout cas, il y a un moment là, un moment de transition, qu'il s'agirait peut-être d'utiliser pour faire un passage, pour faire un sas. Et du coup, c'est là qu'on a pensé à la possibilité d'installer des petits temps de méditation, pas très longs, pour pas prendre beaucoup de temps aux enseignants dans leur heure de classe, de 3, 4, 5 minutes, où les élèves pourraient se poser. Et donc, on est parti de là. Et à partir de ce projet-là, moi, j'ai rencontré les classes. Donc, l'idée au début, quand je rencontrais une classe, c'était, ils savaient que je venais pour le projet de méditation, mais je leur parlais pas forcément directement de la méditation, on le faisait pas directement. D'abord, je me suis dit, et je me suis rendu compte très vite, qu'il fallait d'abord les accrocher. Parce que eux, quand on leur parle de méditation, ils connaissent, c'est fou comme ça se développe, parce que même dans des quartiers un peu difficiles, ils avaient déjà entendu parler de méditation, ils avaient des idées reçues, parfois même les mêmes que les adultes. Mais au début, j'avais envie de leur montrer comment ça pouvait s'intégrer, comment ça pouvait les aider dans leur vie quotidienne. Donc, je leur parlais beaucoup de leur vie, en fait, du rapport au portable, du rapport aux séries, mais sans culpabilité, parce que sans moralisation, parce que moi aussi, je suis pris dans les mêmes phénomènes qu'eux. Je leur montrais aussi que les adultes, on est pris vraiment dans les mêmes systèmes. Et ces accroches-là, que j'ai beaucoup travaillé avec mon ancien métier d'éducateur de rue aussi, ça c'est sûr, faisaient qu'il y avait une ouverture qui se mettait. Et à partir de là, j'amenais petit à petit des petits temps de pratique. Et j'ai été étonné que ça puisse aussi bien marcher. Franchement, je savais pas du tout. J'avais vraiment très, très peur. Je savais pas du tout comment ça pouvait fonctionner ou pas. C'était vraiment une expérimentation. Et peu à peu, et là aujourd'hui, les enseignants que j'accompagne me disent, au début, c'est un peu compliqué. Mais après, les élèves en redemandent. On a besoin de ces temps de pause, en fait. Eux aussi.
Incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous auriez l'exemple d'un élève ou d'une classe, d'un moment fort justement que vous avez vécu suite à ces rencontres et à la présentation de la méditation?
Oui, peut-être j'en ai plusieurs, mais là je pense, parce que pour beaucoup d'entre eux au départ, parce que l'idée de la méditation c'est de faire une pause et de prendre un moment où on simplifie tout ce que l'on fait. Et donc c'est vrai que l'idée c'est quand même de garder un sens d'immobilité pendant les quelques minutes où on le fait. Et pour certains adolescents, rester immobile, même 3 minutes, hein, c'est presque impossible. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'y allais un peu avec le regard un peu classique, c'est-à-dire, voilà, on reste immobile, j'insistais beaucoup sur l'idée de l'immobilité, et je voyais que pour certains, c'était une torture, et que à la fin de la méditation, eux, le constat qu'ils faisaient, c'est que j'arrive pas à méditer parce que je bouge. Là, je me suis dit, non, mais c'est, comme je vous disais tout à l'heure, l'important c'est une attitude que permet de permettre de goûter la pratique. C'est pas forcément de rester immobile pendant 3 minutes. Si c'est ça qui retienne, au fond, c'est pas le plus important. Et la posture, l'immobilité peut aider, mais c'est pas le plus important. Et là, j'ai peu à peu changé un peu ma manière de transmettre, et j'essaie de leur montrer que c'est pas grave s'il y a des moments. En fait, plutôt qu'ils voient tous les moments où ils sont pas immobiles, plutôt de valoriser et qu'ils s'en rendent compte tous les moments. Ou même si ça durait 10 secondes, il touchait un sens d'immobilité, que c'était possible. Parce que je me rappelle surtout d'une rencontre que j'avais faite qui m'avait beaucoup marqué et qui m'avait vraiment aidé à changer mon discours. C'était un jeune qui était plutôt le rigolo de la classe, qui vraiment faisait rire beaucoup, beaucoup toute la classe, les élèves, enfin moi. Et de suite, il avait beaucoup de bagou. Et de suite, dès ma première séance, il est venu me voir à la fin. Il y avait des fois des élèves qui venaient... Il me dit, oh, c'est super, monsieur, votre cours de méditation. Mais moi, franchement, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Hein. Moi, vous me dites de rester en place pendant 3 minutes. Et c'est vrai qu'il avait, alors, ses professeurs me disaient qu'il avait une forme d'hyperactivité. Donc, il me disait, voilà, moi, franchement, je peux pas rester en place. Même en classe, j'essaye, hein, mais je bouge tout le temps et tout ça. Et donc là, je dis, écoute, la prochaine fois, on va essayer de faire que tu remarques. Je te l'ai dit, Oussema, il s'appelait Oussema. Je te l'ai dit que le plus important, c'était, oui, je sais pas si faut dire ça ou non, mais bon. Je te l'ai dit que le plus important, c'était pas que tu ne bouges pas. Et ce qu'on va essayer de faire la dernière fois, c'est d'essayer que tu repères, même si c'est très peu de temps, tous les moments où tu bouges pas, même pendant 5 secondes. Il dit, OK, on fait ça, très enthousiaste. Okay. Et donc, la prochaine, on se voit une fois après, parce que l'idée, c'était de les voir sur, enfin, les classes, j'essaie de les voir au moins 3 fois. Parce qu'autrement, si je les vois qu'une fois, il n'y a pas de continuité. Et donc la fois d'après, on est parti ça, je le regarde au début de course, je te rappelle ce qu'on s'est dit de ça, et là, à la fin, il me dit « Ouais, monsieur, ouais, j'ai pas beaucoup bougé, mais j'ai encore beaucoup bougé, tout ça. » Je dis « T'inquiète, on avance petit à petit. » Et à la troisième séance, il était tellement heureux, et il me disait « Mais monsieur, alors il a appelé Mathieu, ah ouais, non mais j'arrive vraiment à avoir des moments où je bouge pas du tout, moi franchement, je pensais que c'était impossible. » Et il s'est rendu compte que c'était possible. Alors pas qu'il allait être immobile pendant les 3 minutes, mais il s'était enfermé un peu dans l'idée que de toute façon, lui, identitairement, c'était quelqu'un qui était hyperactif et qui bougeait tout le temps. Et là, tout d'un coup, une porte s'est ouverte d'une possibilité de transformation. Et je crois qu'au fond, c'est ça que j'essaye de... Au fond, c'est une des situations qui me montre ben voilà, que c'est super intéressant ce que je fais, parce que c'est ça. Moi, par rapport à ma propre adolescence, c'est ça, que j'étais enfermé dans une identité. Je suis comme ceci, comme cela, comme cela. Et là, la pratique peut être une occasion, parce qu'elle nous permet pendant un moment de ne pas fonctionner comme on fait d'habitude. Mais c'est ça que les neurosciences disent, hein, parce que du coup, on ne bouge pas et tout ce qui se passe, nos pensées qui viennent, on essaye peu à peu de ne pas aller dans la direction habituelle. Et donc, c'est là que peu à peu, tous nos automatismes ne sont pas activés comme d'habitude et que nos schémas neuronaux petit à petit se transforment. Et ça ouvre de nouvelles portes. Et là, que ce jeune puisse se rendre compte qu'il n'était pas que ce qu'il croyait, qu'il y avait une autre possibilité, ben pour moi, là, c'est gagné. Ouais, c'est des petites choses comme ça.
Incroyable. C'est super. Est-ce que vous souhaitez montrer autre chose aux adolescents à travers la méditation ?
Moi, ce que je veux vraiment leur montrer, vraiment, je crois que c'est le cœur aussi de ce que j'ai envie de leur transmettre. C'est parce que c'est ce que je vois un petit peu aujourd'hui. Moi, je travaille beaucoup, je transmets beaucoup la méditation aussi aux adultes. Et ce que je me rends compte, c'est que on est dans un système où il y a quelque chose qui nous pousse à être parfait et à être performant dans tout ce qu'on fait. Il y a vraiment comme une tyrannie comme ça de la perfection où dans tout ce qu'on fait, on doit être au top. Et face à cette tyrannie ou cette assignation qu'on se donne à nous-mêmes ou qu'on nous donne à nous-mêmes par tout ce qui nous entoure, chacun d'entre nous se rend compte qu'il n'y arrive pas. Ça, c'est un constat. J'ai discuté avec des millions de personnes, maintenant, moi, j'adore ça de savoir. Et personne n'y arrive vraiment. Il y a toujours un endroit où ça marche pas, on a une fragilité, chacun, par rapport à une histoire de vie, on a des endroits fragiles, vulnérables. Et le problème, c'est que comme on est pris par cette pression, même si nous on se rend compte que c'est pas vrai, on fait semblant et on fait croire par une image que l'on solidifie, par nos réseaux sociaux, par la manière dont on est en société, de faire semblant que tout va bien. Et nous, les adultes, par cette un peu illusion de masse qu'on fait entre nous, eh ben ça impacte énormément les adolescents qui eux voient des adultes qui donnent l'impression que tout va bien. Et eux, là, ils vivent un moment de crise existentielle, en tout cas la première grosse crise existentielle de leur vie, où tout se transforme, tout change, et où ils sont dans un état de vulnérabilité profonde. Voilà, moi j'adore le complexe du homard de Dolto qui m'avait marqué quand j'étais éducateur, et je trouve que c'est vraiment ça, c'est très marquant, comment à un moment ils ont perdu leur carapace, et tout a un impact qui touche directement leur cœur, et ça a des très très grosses conséquences pour leur avenir. Donc pendant cette période, moi, ce que je remarque quand je travaille avec les ados, c'est qu'il y a une difficulté à s'identifier aux adultes qui les entourent. Et après, il y a aussi un phénomène inversé, c'est toujours des phénomènes extrêmes. Et après, il y a des phénomènes inversés où il y a des personnes qui sont restées un peu, qui sont des adultes, qui sont restées complètement un peu ados et qui n'ont aucune stabilité et qui sont avec leurs adolescents comme s'ils étaient avec un ami, mais pas dans le sens noble de l'amitié, mais vraiment dans un truc qui empêche l'adolescent d'avoir un repère qui lui permet de grandir aussi. Dans ces deux espaces, en tout cas, il y a quelque chose du grandissement qui est impossible, et il y a comme une forme d'équilibre de ce que pourrait être un adulte qui est fragile, qui assume ses fragilités, qui peut en parler, et qui en même temps assume quelque chose du fait d'être adulte. Et donc là, moi, à partir de ce constat-là, ce que j'ai vraiment envie de transmettre aux ados quand je les rencontre, c'est on est comme vous. Là, nous, adultes, on est pris par les mêmes phénomènes que vous, le divertissement, cette tyrannie de la perfection. Et à partir de cette idée « je suis comme vous », j'ai installé, ça s'est fait tout seul, quelque chose d'un discours vraiment authentique, d'un parler vrai, en fait, que je dis comme ça, qui fait que je sens que ça leur fait beaucoup de bien d'avoir la possibilité de parler à un adulte qui leur parle directement de ses propres soucis, si c'est possible, sans non plus en faire trop d'histoire, mais vraiment et de créer une situation d'authenticité qui permette un peu d'enlever les masques, en fait. Qu'à un moment, voilà, on peut prendre une heure, on bat les masques et puis on peut parler vrai. Et moi, je le vois dans ma vie, hein, quand je fais une rencontre avec quelqu'un où à un moment, je peux faire tomber le masque et qu'on peut parler vrai, quand je ressors d'un discours comme ça, je me sens bien, je me sens plus tout seul et je sens qu'il y a quelque chose qui peut me permettre de dépasser mes difficultés. Et c'est souvent dans ces rencontres authentiques, ces lieux. Donc là, j'essaye de créer cette atmosphère d'authenticité. Et les profs, ils sont pris dedans parce que moi, j'essaie vraiment de faire des temps ouverts. C'est-à-dire, j'ai dit, voilà, je rencontre une classe. Il y a bien sûr l'enseignant qui donne classe à cette heure-là qui peut venir. Mais venez tous ceux qui ont un moment de libre, qu'on fasse vraiment un moment tous ensemble. Et voilà, les profs sentent cette atmosphère où on peut être soi-même. Les élèves parlent de choses, de leur vie. Les professeurs se mettent à la place de leurs élèves. Ils disent, ah ouais, leur vie, elle est comme ça. Et puis, certains profs, des fois, prennent la parole et disent, ben moi aussi, ça se passe comme ça dans ma vie. Donc, les élèves, ils se mettent à la place des profs. Et moi, c'est ça que je revoyais beaucoup dans les établissements scolaires, c'est que chacun est à sa place. Et ne regardez plus, enfin, n'arrivez plus à faire les passages pour essayer de comprendre la situation de l'autre. C'est pas tout le temps le cas, je fais des généralités, des grands traits, mais. Et donc, du coup, il y avait un moment de rencontre, là, authentique, où chacun pouvait se mettre à la place, même des fois, voilà, les proviseurs, tout le monde. Et là, ça crée une atmosphère beaucoup plus favorable dans les établissements. En tout cas, moi, quand je suis resté très longtemps dans un établissement, dans certains établissements, et ils me disaient que l'atmosphère change. Et au fond, c'est ça. En acceptant leur propre fragilité dans ce moment de crise, j'ai vraiment la conviction que ça les aidera à beaucoup mieux traverser bon cette crise-là de l'adolescence. Mais aujourd'hui, on vit des crises tout au long de notre vie. Enfin, c'est un peu la particularité de notre temps, c'est qu'il y a tellement de choses qui bougent. On est en reconversion. On peut avoir que des gens vivent des crises un peu existentielles tout au long de leur vie. Donc, c'est comme un premier essai, une première occasion de travailler avec la crise et d'en faire une force. Moi, c'est ça que m'a permis la méditation. C'est aujourd'hui, j'ai une crise. J'angoisse comme les autres, j'ai des émotions difficiles comme les autres. La méditation m'a pas enlevé ce trouble qui arrive quand il y a une crise, mais ça me permet beaucoup plus facilement de surfer avec cette crise et d'en faire vraiment une force et d'en faire quelque chose qui fasse tournant dans ma vie. Parce que si on réfléchit vraiment, tous les moments de crise qu'on a eu, c'est vraiment les moments où on a eu des tournants de vie, des moments où on a pris des décisions. Et donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie aussi de leur faire vivre.
Et ce qui est incroyable, c'est que vous arriviez à créer cette atmosphère, alors même qu'on pourrait se dire justement que les profs et les élèves entre eux n'arrivent pas nécessairement à s'ouvrir sur leur fragilité.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça, j'ai beaucoup fait des groupes, notamment ça, je l'ai vu à Sciences Po. À Sciences Po, je travaille avec 15 étudiants qui s'inscrivent. Alors eux, c'est pas pareil, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils s'inscrivent. Donc il y a un pôle santé à Sciences Po où il y a plusieurs types d'activités, dont l'atelier méditation que j'anime. Et donc au début du semestre, ils s'inscrivent. Et donc pendant 6 mois, un semestre en entier, on se retrouve à 16 avec moi, et on se retrouve toute chaque semaine 2 heures. Et donc c'est quand même là, moi je trouve que c'est exceptionnel parce que j'ai quand même pendant 6 mois, je les vois 2 heures par semaine, le même groupe de 15. Donc moi je trouve là il y a un temps assez long pour faire vraiment une aventure et faire vraiment une expérimentation sur le long terme. Et là au début ils arrivent tous, tout le monde est parfait. Et c'est et puis c'est tous voilà moi la première fois que je l'avais vu donc on reçoit un peu les dossiers mais tous enfin leur photos puis leur parcours un peu et tous ils avaient le bac mention très bien que des gens qui ont réussi dans leur vie finalement et qui se retrouvent à Sciences Po. Et donc quand ils arrivent, voilà, moi j'avais l'impression la première fois que j'ai fait, maintenant ça fait 4 ans, je vois un peu comment ça fonctionne, mais au début, voilà, tout le monde allait bien, voilà, je vais faire de la méditation. Alors ils parlaient quand même qu'ils avaient sûrement un peu de stress et d'émotions, et puis peu à peu, moi j'essaye d'installer cette atmosphère où ils peuvent parler vrai. Je commence souvent par parler moi-même, en fait. Dès que quelqu'un commence par lui-même à parler à partir d'une vérité de ce qu'il est, c'est comme s'il y avait une reconnaissance mutuelle et on fait le basculement vite, en fait. Très vite, les gens commencent à parler vrai. Et là, moi, je voyais à Sciences Po, les gens petit à petit tomber les masques, parler vrai, parler de leurs difficultés et tous, on sentait vraiment, c'est fou, hein, c'est paradoxal, mais on parlait de nos difficultés et paradoxalement, ça nous permettait à tous de nous sentir mieux parce qu'on sentait qu'on n'était pas seul. Parce que je crois qu'il y a vraiment un sentiment qu'avec nos fragilités, on est les seuls. Parce que quand on regarde autour de nous, quand on regarde les autres, on se dit, mais il y a que moi qui suis dans la merde, en fait. Il y a que moi qui... Non, mais c'est fou, quoi. Et ça, je le vois partout. Ouais. Dans la méditation, on regarde les autres méditer, on dit, putain, je crois qu'il y a que moi qui arrive pas. J'ai plein de pensées et les autres, on les voit tenir là, On a l'impression qu'ils sont complètement sereins. Et alors, c'est pas du tout ça qui se passe chez eux. Et dans la société, c'est pareil. Et à Sciences Po, c'était pareil. Et ils ont commencé à parler de leur vie, vraiment. Ils racontaient que, par exemple, le week-end, quand tu rentres le lundi, il faut pas que tu dises si t'as pas fait grand-chose. Il faut pas le dire, quoi. Il faut dire que t'as fait une expo, que t'as écouté 3 podcasts. Autrement, t'es considéré comme pas à côté, quoi. Et donc, le fait de pouvoir être eux-mêmes, de faire qu'ils s'apitoient ou qu'ils perdent leurs exigences, ça les rendait beaucoup plus en rapport à leurs difficultés. Et c'est ça la force de la méditation. Plus tu rentres en rapport à tes difficultés sans les cacher sous le tapis, plus t'es capable de les dépasser. Et c'est formidable, ça. Et donc, c'est très vite.
Passionnant.
Ouais, très vite quand on est dans une atmosphère. Et ça, on le voit dans une réunion ou avec des amis. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui commencent à parler vrai. Pouf, ça crée une atmosphère. Et tout d'un coup, on pensait pas parler de ça. Et puis là, on dit quelque chose de vrai. Et à la fin, on dit, là, c'était un moment important. On le sent à la fin. Ça a été un moment vraiment essentiel.
C'est super. Et alors là, je vais vous poser une question qui intéressera certainement beaucoup Sylvie. Comment est-ce que on peut mettre cela en place dans son établissement scolaire ? Que ce soit avec vous ou même un enseignant qui a envie de mettre en place cela dans son collège ou son lycée.
Moi, je peux partir des exemples un peu que j'ai vus, comment ça s'est passé dans certains lycées et collèges. Souvent, c'est sûr qu'il y a quelques enseignants qui sont très motivés dans un groupe pour être les moteurs un peu même pendant... quand je suis plus là, ou même qui sont moteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le livre, moi, j'ai essayé vraiment que le livre puisse permettre de rendre que quelqu'un qui souhaite l'amener dans un lycée, dans un collège ou même dans un foyer avec des jeunes en difficulté, partout où des adolescents se retrouvent, d'amener des clés pour aider quelqu'un qui souhaiterait le faire de mettre en place ce genre d'atelier ou de groupe.
Donc le livre, c'est très concret d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que d'aider les personnes, parce que je pourrais pas aller partout, et puis c'est pour ça aussi l'idée d'un livre, c'est que ça puisse se diffuser un peu plus. Donc voilà, il y a quelques clés, et puis moi je pense que l'idée, c'est on peut commencer avec une classe, d'expérimenter comment ça se passe. Au début, on s'était dit que c'était bien de le commencer en début de classe, donc on peut commencer à mettre des temps comme ça, des petits temps. Il faut pas que ça soit plus de son, comment ça perd du temps dans la classe, mais voilà, au début ça peut être vraiment 2, 3, 4 minutes, des moments de pause. C'est important de guider un peu les élèves, parce que le silence, c'est un peu l'angoisse au départ. Pour eux, après, ils apprivoisent ce silence aussi. Et donc, voilà, pour ceux qui connaissent un peu la pratique, c'est très, très simple. Voilà, ils peuvent amener quelques éléments dans la pratique. Autrement, ceux qui ne savent pas du tout dans le livre, voilà, ils ont des méditations guidées et puis des éléments écrits qui pourraient les aider à guider une méditation. Certains profs utilisent mes bandes aussi pour lancer le début du cours. D'autres se sentent plus à l'aise pour le faire eux-mêmes. Et puis après, plus vous commencez comme ça en début de classe, et après, moi, ce qui se passe un peu souvent dans les classes, c'est qu'après, les élèves sont de plus en plus capables de le demander dans des moments clés. Par exemple, si à un moment la classe est très très agitée, bon, il y a des profs qui m'ont étonné en disant, des fois c'est un élève qui dit, monsieur, là on devrait méditer, parce que là non, franchement c'est n'importe quoi. Bon, ça c'est des ça arrive pas à chaque fois, mais après ça peut, même comme c'est des temps très très courts, on peut le mettre au milieu de la classe, parce qu'on sait que à partir de 20-30 minutes il y a un moment de creux. Peut-être là ça vaut le coup d'avoir un tout petit temps, mais c'est des... Ça peut être vraiment même une minute, juste on se pose, hop, et on repart. Et après, avant les examens, je sais pas, en école primaire, ou ce sera pas le cas, mais dans un collège ou dans un lycée, beaucoup d'enseignants le font, quelques minutes avant de commencer le cours, parce que beaucoup d'élèves disent qu'avant le début d'une épreuve, il y a un moment de stress très très important, qui font que pour beaucoup après, ça se génère par ou la paralysie, ou le fait qu'ils n'arrivent pas à lire les consignes jusqu'au bout. Et ça, c'est les profs qui le disent aussi beaucoup. Un des phénomènes, c'est ça, c'est qu'ils sont tellement stressés qu'ils lisent pas la consigne jusqu'au bout. Donc même certains qui ont étudié et qui connaissent vraiment leurs leçons vont se tromper parce qu'ils n'ont pas été assez attentifs. Donc on peut faire des exercices comme ça aussi juste avant une épreuve. Et puis après, dans certains lycées, ils ont créé vraiment une salle de méditation accessible aux élèves et aux profs. Qui est ouverte à des moments. Alors il y a des créneaux possibles, mais entre midi et deux. Enfin voilà. Et là, je pense notamment dans un lycée de Normandie, là où il y a vraiment quelqu'un qui est motivé pour le faire, pour tenir cette salle en fait. Et non, ils sont deux même. Et puis ils se relaient. Et puis voilà. Et là, il y a des profs et des élèves ensemble, ce que je trouve génial, qui méditent ensemble. Donc ça, voilà, c'est des projets qui ont émergé aussi dans certaines classes et puis dans certains collèges maintenant. Il y a des horaires précis. C'est comme un peu chute en lit. Comment ça s'appelle le projet? Chute en lecture ou dans le collège à un moment. Voilà, une heure précise, tout le monde médite. Je sais pas. Et chaque jour, ça change. Il y a une heure précise. Je sais pas, 14 heures ou. Et ça change pour avoir des temps de méditation à 8 heures le matin, mais aussi à 14 heures. Et là, parce que les profs sont super motivés. Enfin, j'y suis resté pendant 2 ans. Là, il y a un truc. Chute, on médite. Et pendant tout le monde se pose, où qu'il soit, et fait la méditation.
Oh, c'est top. Ouais. Je vais vous poser une dernière question parce qu'on a déjà un peu dépassé le temps, mais j'aimerais vous poser une dernière question. C'est sur la formation des enseignants. Comment celle-ci se déroule?
Alors là, c'est complètement hybride. Ça se fait à chaque fois avec l'équipe enseignante, avec les proviseurs. En fait, ce qui a vraiment marché à ce moment, ce qui fait que ça a un peu fait boom les formations, c'est qu'ils ont réussi à faire que ce soit financé par... Parce que dans l'éducation nationale, c'est toujours le problème du financement. Donc là, ils ont réussi. Moi, j'ai été reconnu par le rectorat, pas d'Île-de-France en entier, mais des secteurs de Paris où j'ai travaillé. J'ai été reconnu aussi en Normandie, par le rectorat de Normandie, avec la cellule innovation du rectorat. Donc, ils ont pu obtenir des financements pour la formation des enseignants. Et là, en plus, je dis enseignants, mais c'est des formations ouvertes à tous, en fait. Ça peut être personnel administratif, ça peut être surveillant, ça peut être CPE,
proviseur. Ouais, c'est super. Ça englobe tout le monde.
Ouais, voilà. Et c'est des temps où on n'est pas plus de 15, parce qu'il y a vraiment l'espace du groupe. Là, moi aussi, c'est pareil qu'avec Sciences Po, en fait, créer une atmosphère qui permette aux enseignants d'être vrais, en fait. Et ça crée beaucoup aussi de rencontres entre les gens alors qu'ils travaillent depuis des années ensemble. Et c'est assez fou ça aussi. Et donc l'idée, alors souvent un minimum on va dire ce serait 12 heures. Après ça peut être 12 heures de formation. Souvent c'est des temps de 1h30 à 2 heures pour comprendre vraiment le temps. On va dire minimum 12 heures quand même pour faire pour 2 x 6, ouais, ça fait 6 temps de formation de 2 heures par exemple. C'est le minimum pour que les gens puissent déjà sentir la méditation sur eux-mêmes. Parce que c'est ça aussi. Le but de la formation, c'est que, à la fois, c'est pour eux. C'est pour ça qu'on rentrait aussi dans les grilles au niveau du financement de la santé au travail. Enfin, parce que c'était quand même aussi pour eux-mêmes, parce qu'ils en ont besoin, autant que les élèves. Et puis, en même temps, on arrivait à faire des moments où comment le transmettre aux élèves. Enfin, voilà. J'essayais de partager la formation pour qu'ils puissent avoir un temps pour eux. Et un temps aussi de transmission. Mmh. Et à partir des 12 heures, certains sont à l'aise pour pouvoir le transmettre à leurs élèves.
C'est génial. Bravo vraiment pour ce que vous faites. C'est passionnant. J'ai passé un excellent moment et je recommande vraiment vivement à nos auditeurs de se procurer votre livre que j'ai vraiment dévoré et tout ce que vous faites. Et c'est vraiment génial. Bravo. Alors merci beaucoup pour votre temps. C'était super de vous rencontrer.
Merci beaucoup à vous deux. Et c'est super ce que vous faites aussi. Je trouve que c'est vraiment un beau projet que vous permettez, que vous apportez beaucoup à la société par tout votre travail. Et aux enfants, j'aurais bien aimé être dans une école Montessori. Je crois que c'est ça qui m'a manqué. Je crois que là, j'aurais été dès la maternelle, je me serais senti compris. Je crois que c'est ça.
Oui.
Je crois que c'est ça.
Oui.
Comme j'étais.
C'est très possible. Ouais. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.